RMC.
Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
Le Super Football Show.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois. Mais...
Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot Nicolas Villas.
Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'after avec ce soir Ali Benarbia. Bonsoir Ali.
Qu'est-ce que t'es beau, hey. Bonsoir.
Alors c'est, on a lancé ça avec Laurent Fala, notre community manager. À partir de maintenant, vous allez voter, choisir le nœud pape que je mettrai le week-end. Voilà, c'est comme ça.
Et on a accès à la foot, nous, et voter pour ton nœud.
Mais tu veux pas
là,
voter,
c'est
tu
es
obligé d'aller voter. Voilà. Mmh. Alors, j'avais dit Olive, avec la lumière, il fait un peu doré, c'est un peu moutarde, et un peu couleur.
Non, moi je trouve joli.
Si, Golden. Non, il a raison, ouais.
Une Golden
d'honneur, en revanche, Nicolas.
Vous avez reconnu la bonne, la belle voix de François Malardo.
Sur les
telle que je dirais pas quoi, d'ailleurs. Retour sur là, les affiches de la 14e journée de Ligue 1 d'aujourd'hui. Petit tour en Allemagne également tout à l'heure avec David Lortolari, parce qu'ils sont passés des choses assez extraordinaires aujourd'hui en Bundesliga. Juste avant, quand même, résultat de rugby. Qu'est-ce que les Français Bachelu le 23-23 contre le Japon.
Oui.
Après 5 défaites d'affilée, hein, le 15 de France qui donc a fait match nul à Nanterre aujourd'hui.
Héroïque contre la sélection nippone, n'est-ce pas?
C'est fou quand même, non?
Ah ouais, ça, ils sont pas bien.
Ça sent encore.
On n'est pas au bout de nos surprises.
On a des stades, nous, dans la vie. Pourquoi Nanterre?
Alors parce qu'au fait, le tennis a joué à Lille, là où devait se jouer le match de rugby, et le rugby a été délocalisé à Nanterre.
Mais t'as le stade français, quel stade que je sache?
Ouais, mais bon, après, commence pas à me poser des questions, non, j'ai pas la réponse.
Ah, je t'ai eu là.
C'est avant l'émission.
Mais non, c'est ça la scène. On est en direct.
Ils ont juste sur un synthétique, c'est assez drôle. Tiens, puisque je vous parlais de tennis également, vous le savez, RMC, la radio officielle de la finale de la Coupe Davis, France-Belgique, la France mène 2-1. Après avoir remporté le double cet après-midi, RMC est délocalisé tout le week-end au stade Pierre-Mauroy à Lille avec un dispositif exceptionnel. Demain, dès 10h jusqu'à 20h. Alors, il y a tous les choix, hein, les grandes gueules du sport, l'intégral sport, le total sport. Les deux derniers singles sont à vivre en intégralité sur RMC avec la Dream Team du tennis, Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, il y aura Florence Serra, Olivier Giraud, également Stephen Brun, Eric Salio et Arnaud Souk. Et toutes les dernières infos sur la finale sont à retrouver, bien sûr, sur rmcsport.fr. Voilà. Je vous donne le résultat de Ligue 1 de cette 14e journée. Alors ça, c'était hier, de partout entre Saint-Etienne et Strasbourg. Rennes s'est imposé cet après-midi, a remporté son derby face à Nantes 2-1. Victoire de Montpellier 3-0 face à Lille, où il n'y a plus Bielsa pourtant. Caen a battu Bordeaux 1-0, nouvelle défaite pour Bordeaux. Amiens est allé s'imposer 2-0 à Metz. 3 a battu Angers 3-0. Victoire de Dijon 3-1 face à Toulouse. Demain à 15h, il y a Nice-Lyon. À 17h, il y a Marseille-Guingamp. Et à 21h, à partir de 20h, sur RMC, l'affiche entre les deux derniers champions de France, à savoir Monaco au Paris Saint-Germain. Un petit point sur le classement. Bah, Monaco et le PSG sont en tête comme la semaine dernière, comme ces dernières semaines. D'ailleurs, devant Lyon qui a 3 points de retard sur l'AS Monaco, on a Marseille derrière à la 4e place. Marseille qui est à 1 point de Lyon seulement. Nantes est 5e avec 23 points. On a Montpellier qui est à la 7e place maintenant. Ils sont à 2 points de Caen qui est 6e. C'est pas mal, hein, ça aussi. Hein. Alors Saint-Étienne qui est quand même à la 8e place avec 19 points. Et alors dans la zone rouge, alors là c'est hyper serré, ouais. C'est hyper serré. Parce que regardez, le barragiste, le premier barragiste. Quand je dis regardez, c'est pour ceux qui sont sur BFM Sport, pas la radio, tu t'en doutes. 14 points pour Strasbourg, c'est 2 d'avance sur Lille qui est premier relégable pour l'instant. Strasbourg qui a égalité de points avec Angers et Nice qui jouera donc demain. Guingamp à 15 points. On a Toulouse à 16 points qui commence à glisser, hein,
oui,
le TFC. Hein. Bordeaux. Et Bordeaux également, 17 points pour Bordeaux, 13e.
On me disait, oui, est-ce qu'ils peuvent accrocher le podium? J'ai dit pas du tout. Bah, la preuve année, c'est qu'ils dégringolent, il va falloir absolument qu'ils reprennent.
Mais, d'accord, mais ça, c'est des rythmes qui sont très très courts finalement quand tu regardes les points et à quel point ça se tient dans son championnat
avec
de France.
Deux victoires.
En fait, t'as une équipe qui est décrochée au-dessus, une équipe qui est décrochée en bas. Après, le reste, évidemment, hein, y a des points grignotés un peu à droite à gauche.
On a vu Amiens.
Sur les si tu divises le tableau en deux parties, il y a la partie du haut qui se tient et la partie du bas qui se tient. Voilà, il y a Metz décroché et Paris décroché.
Tiens, je vous donne quelques autres résultats. En Ligue 2, 16e journée, Le Havre a battu Lens 1-0. Manchester United, ça c'était des matchs que vous avez pu suivre sur SFR Sport, a battu Brighton 1-0. Ouais, ça a été ric-rac effectivement. Liverpool Chelsea, un but partout. En Espagne, Real Malaga 3-2. Et alors en Espagne aussi, il y a Levante Atlético 5-0 pour l'Atlético, doublé de Kevin Gamero. Doublé de Griezmann.
Ah, ça y est,
ils sont réveillés. En Allemagne également, match spectaculaire. On y reviendra tout à l'heure avec David Ortolari.
Fir.
Le derby de la Roue. Schalke 0-4, Dortmund 4 partout. Schalke qui menait
qui était mené 4-0.
Qui était mené 4-0 après une
demi-heure
de jeu.
Au bout de moins d'une demi-heure de jeu, ouais, c'est ça.
Gladbach a battu le Bayern 2-1, première défaite pour Young Pankus.
Surprise.
Et un petit résultat tient également en Turquie. Le Galatasaray a battu Alanyaspor 2-0 avec un but de Bafegomis, meilleur buteur en Turquie. L'Inter a battu Cagliari 3-1.
Cagliari.
J'ai dit quoi ?
Non, Cagliari.
Oui, c'est Cagliari, tu l'as dépassé.
Cagliari.
Ne t'arrête pas.
Cagliari qui a été champion d'Italie en
Cagliari. En football.
C'est rare quand même. Cagliari, champion d'Italie alors.
11 joueurs.
Le championnat de Didier Riva.
82.
1970.
Ah ben, j'étais pas loin.
Riva, 70.
C'était pas les pareils, je m'en fous.
Et l'autre est Riva, 70.
Bah oui, il fait les bateaux.
Mais si on va débuter par l'une des affiches de ce soir, Montpellier qui a battu Lille 3-0. Alors vous le savez, Bielsa est suspendu de ses fonctions du côté du LOSC. Et un espèce de monstre à trois têtes qui a été monté pour diriger l'équipe.
Avec Luis Campos.
Ouais, 4, il y a Luis Campos au-dessus qui chapeaute tout ça. Défait 3-0. Roussillon a marqué le premier à la 4e. Sio à la 24e. Ninga à la demi-heure de jeu. Tout a été plié en première période. Voilà, Lille qui est donc avant-dernier au classement. Comment vous analysez cette défaite, les gars?
Je pense déjà qu'on se posait des questions sur, on se posait des questions sur Lille, mais en plus, le fait que le départ de Bielsa, qui lui avait tout chamboulé, ben là, ils sont complètement chaboulés, les joueurs. Hein. Ils savaient même plus quoi faire.
Non, mais c'est plus les dogs, c'est les chiots.
Et le fait.
Et c'est facile. Wow. C'est facile. Non, mais là, vraiment, ça s'impose. Enfin, Ali, on a tous vu la même chose. Là,
on a l'impression d'avoir des
autistes en défense.
Non, on dirait que Montpellier jouait tout seul.
Des autistes en défense, les amis. Mais les supporters lillois seront les premiers à le reconnaître. C'était
c'est vrai que sur les trois buts, ça fait peine. Ouais, sur les trois buts, ça
joue les espaces.
Ouais, ouais, c'est compliqué.
J'ai jamais vu un match de Ligue 1, même des matchs qui sont très moyens, ou avoir autant d'espace en défense. C'est-à-dire que Montpellier, il devait se poser des questions. Comment ça se fait que je suis seul? C'était assez bizarre, hein, pouvoir contrôler, se retourner comme tu veux. Et dès qu'il y a un débordement, un centre ou une passe en profondeur, ça y est, tu cassais les lignes comme s'il n'y en avait pas du tout.
Là où ça fait mal, c'est qu'on rappelle que Lille avait ce fameux match à rejouer face à Amiens. Ils ont perdu 3-0. Là, ça fait quand même deux fois 3-0 en deux matchs. Hein.
Mais déjà, Amiens, c'était plus ou moins un sauvetage qui pouvait leur permettre de ressortir un petit peu, tu vois.
Ouais.
Ils ne se sont même pas accrochés à un match nul parce qu'ils se disaient si on gagne. Tu vois, ils en ont pris 3-0 et Amiens a dominé. Hein.
C'est un supporter du LOSC qu'on vous attend, hein, d'ailleurs, au 32-16. Juste quand même pour vous donner, le prochain match de Lille, ce sera à Lyon. Ils vont recevoir Toulouse et ils vont aller au Parc. Hein.
Mais autant, donc, autant l'image du show, évidemment, je l'utilise à dessein.
Ça, on l'a compris,
elle est facile. Mais regardez après, dans ce dog, la petite métaphore que j'ai essayé de faire, c'est que t'as l'impression que ces joueurs
sont en doggy style.
Ont complètement perdu leur science du foot,
ouais,
leur connaissance de ce sport et des,
c'est ce qu'il faut
des
dire qu'il arrive
déplacements,
à faire bien
défense.
Ça,
ouais. Je sais pas ce que l'Argentin leur a pas fait ou leur a fait, et le vestiaire dans quel état de marasme il se trouve. Mais quand tu vois ce jeu lillois, surtout quand il s'agit de défendre, qui est complètement à l'abandon dans un état de décrépitude, comme on l'a vu ce soir à Montpellier, qui est quand même pas l'attaque la plus
surtout à domicile.
Tonitruante,
alors avant soir,
de la Ligue 1.
Il comptait 9 buts hein, seulement en Ligue 1. Alors là, ils sont à 12, du coup, vous l'aurez compris. Mais ça fait pas beaucoup, hein, en 14 journées. Voilà, 12 buts marqués. Alors,
pas
ils ont la meilleure défense, on va y revenir dans quelques instants.
Oui, mais on le voit rarement avec beaucoup d'occasions. Et mettre 3-0 contre Lille en sachant que, bon, Lille, c'est même plus une défense, c'est même plus une équipe. C'est même plus même maintenant un club, parce que tout a été refait en 4 mois. D'en haut jusqu'en bas.
Et là, ils sont en train de refaire encore ce qui a été refait.
Enfin, donc, je sais pas ce qui va se passer. Moi, ça faisait depuis le mois de janvier qu'ils avaient commencé à bosser sur le nouveau projet, hein, et que Bielsa était dans les tuyaux. C'est plus que 4 mois. Non, mais c'est pour dire à quel point ce projet lillois, il est même pas mort-né.
Bah, alors, le problème, c'était pas Bielsa,
alors. C'est un échec tonitruant. Bah, il est dans le problème.
C'est pas une porcelle.
Tu peux pas l'exonérer. Lui-même ne s'est jamais exonéré.
Il fait
sa part de responsabilité. Il a évidemment sa part de responsabilité. Mais moi, c'est toujours mon habitude de dire que les premiers responsables sont les joueurs par rapport à ce que tu vois dans le jeu.
Ce que j'arrive pas à comprendre en France comparé à ailleurs, c'est que quand des investisseurs, ils arrivent, normalement tu récupères le club à l'État. Tu le gardes à l'État, tu es actionnaire et tu restes. Là non, on dirait qu'en France les actionnaires viennent, veulent tout enlever et mettre leur propre équipe et on va y arriver.
Bah, c'est logique, non ?
Mais non, c'est pas ça un club de foot. Un club de foot, tu le récupères et tu essayes de l'améliorer. Tu ne repars pas de zéro. Sinon, il te faudrait combien d'années pour arriver non, déjà là où il en est?
Non, mais là, Ali, il y a eu le centre de formation qui avait été fait, il y a Luchin qui avait été construit. Ils ont profité aussi de cet outil-là. Il y a pas, ils ont pas tout refait. Ils ont restructuré en interne, ce qui est normal.
Mais tu arrives.
Il met son oseille, il veut bosser avec des mecs à lui, des mecs de confiance.
Non, mais tu changes tout. C'est un club de football avec des employés qui sont là pour le club. Ils sont pas là pour Cédou. Ils sont pas là pour te casser les pieds ou quoi que ce soit. Ils sont là pour employés de club. Il y a beaucoup d'emplois de club, même au niveau technique et tout.
C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements en interne dans la collection.
Oui, c'est du n'importe quoi. Ouais. Déjà en France, on a du mal à avoir un club, tu sais, où il a des bases, avec des anciens qui sont là et tout, et que la culture club qui continue, déjà, ça en a du mal. Mais si en plus ça arrive, et tu ratures tout ça d'un coup,
Ali,
tu repars Ali, du début.
C'est encore tôt pour le dire, parce qu'on n'est même pas à mi-chemin du championnat. Mais après la déroute de ce soir, on va commencer quand même à s'interroger de savoir si Lille va pas être dans le wagon.
Je pense qu'on peut déjà s'interroger maintenant. Ils y sont, pour le moment.
Pour l'instant, mathématiquement.
Attends, tu pars 3-0 contre Amiens qui joue clairement le maintien. Là, on vient de parler du calendrier qui arrive. Là, tu repères
le calendrier. J'ai compris qu'ils allaient jouer à Paris.
Ils vont à Lyon. Ils vont à Paris. Entre temps, ils vont recevoir Toulouse. Alors que Toulouse devient maintenant aussi un adversaire pour le maintien.
Ça a été catastrophique ce soir, Toulouse. Ouais.
En parlant du vainqueur quand même, les gars. Montpellier, parce que mine de Montpellier. Et ils sont en train d'engranger des points. Les Montpellierains, ils sont 7e au classement avec 20 points. Et on le disait, 8 buts encaissés depuis le début de la saison, c'est la meilleure défense de Ligue 1. On a souvent eu tendance à caricaturer Der Zakarian. Il a des résultats, Der Zak.
C'est un défenseur.
Déjà, ça veut rien dire, ça.
Oui, si.
T'as des défenseurs qui jouent, t'as des attaquants qui jouent.
Oui, mais il commence par la base. Et la force de Der Zakarian, c'est quoi? C'est d'avoir une équipe d'abord solide, pour qu'après les milieux et les attaquants à la fin s'expriment.
Mais ça joue pas mal, Montpellier, cette année.
Oui, bien sûr que ça joue bien. Et t'as pas vu les joueurs maintenant? Ils se permettent de se retourner au milieu terrestre, qu'ils faisaient pas avant. Avant, il recevait un ballon, mais il la remettait, de peur de. Maintenant, le fait que la défense et l'équipe, elle a une base solide, ils se permettent de se retourner et même de se projeter vers l'avant pour finir les actions, alors qu'avant, non, ils pensaient surtout à se protéger et ça ne marchait pas. Et maintenant, ça marche mieux parce que, ça y est, ils ont une défense solide et associer Hilton, Mendes et Congrès, c'est ce qui est une bonne chose, c'est ce que a compris Der Zakarian en tant que défenseur, je le dis bien.
Accueillons Ludovic, supporter de Montpellier, qui nous a appelé au 32-16. Salut Ludovic.
Ouais, bonsoir les gars.
Salut
Ali et François, évidemment. Salut à tous.
Bon Ludovic, Montpellier est resté sur 3 matchs en victoire. Ça y est, la machine a lancé.
Ben ouais, justement, tu parlais de ces 3 matchs. C'est peut-être le petit regret qu'on a là à la Mosson, Amiens, Rennes. Voilà, on accroche les gros, notamment le week-end dernier 0-0 à Lyon, et puis après voilà ce match, cette victoire. Après, je sais pas ce qu'il faut trop retenir de cette victoire ce soir, parce que Lille était en perdition. Après moi, ce que je voulais dire, c'était qu'on avait su aussi les mettre en difficulté. On s'est facilité le match en mettant ce premier but dès la 5e minute. Mm-hmm. Donc après voilà, c'est vrai que Lille est à la rue. On sait pas trop où ils étaient sur le terrain, etc. Donc c'est vrai que en se mettant ces 3 buts dès la première demi-heure, ben voilà, effectivement après c'est sûr c'est plus facile, surtout face à une équipe comme ça qui peut pas, qui a pas les moyens, on va dire, de réagir après par la suite, quoi.
Non mais t'as raison sur une chose Ludovic, c'est que c'est pas parce que l'adversaire est faible et se cherche et que tu marques en premier, mais si tu le tues pas le match, même cet adversaire faible peut te gêner à Montpellier, surtout qu'à Montpellier,
surtout
à domicile.
Surtout s'appelle Montpellier, exactement.
Oui, et surtout à domicile cette année, Montpellier, pour marquer des buts, c'est dur.
Mais tu t'attends à quoi cette saison, toi, Ludovic?
Attends, c'est quoi ce bordel?
Tu t'attends à quoi cette saison, toi, Ludovic?
Ah, vous m'aviez déjà posé la question.
Bah, excuse-moi, mon pote.
La dernière fois.
Peut-être non, que tu te m'as rêvé ce soir, j'en sais rien moi.
Non mais en plus, de voir autant de buteurs différents à la Mosson, ça c'est sympa, ça fait très longtemps. Que ce soit Ninga, Sio, alors en plus, vous imaginez les gars, Sio qui a frôlé le doublé quand même ce soir. Non, c'est excellent ça.
Pauvre Sio. C'est méchant ça, je suis une pointe d'ironie dans tes paroles.
C'est encore plus dur pour la défense.
Non. Sio il avait déjà marqué contre Amiens, il nous avait rapporté le point du nul parce qu'on s'était fait égaliser par la suite. Mais là voilà, il est en train de monter tout de suite en puissance et je pense qu'il y a moyen qu'il mette, peut-être pas la dizaine de buts cette saison, mais s'en approcher en tout cas, comme il faisait peut-être à Rennes. Et puis après, c'est vrai que pour cette saison, là, regarde, on est 7e. Voilà, on est satisfait de la défense. Donc je pense qu'avec cette base solide dont parlait Ali à l'instant, on peut faire une bonne première moitié de classement. Après, c'est vrai qu'on reçoit Marseille la dimanche.
Ouais.
Donc le fait d'avoir accroché des gros et tout ça, si on commence à être un petit peu plus solide face à des équipes de milieu de tableau, on va
dire. T'as Guingamp avant, je crois.
Et à l'extérieur, ouais, mercredi, on va à Guingamp. Ouais. Mais franchement, c'est de voir ce match-là, je suis impatient face à l'OM pour savoir si, effectivement, on peut aller ce poil plus haut, là, et intégrer le top 5, pourquoi pas.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que sur le papier, on pourrait croire que Montpellier a peut-être un effectif un peu juste.
Non, moi je pense qu'entre la 5e et la 10e place permettrait à Montpellier de terminer la saison plus sereinement que ces dernières années. C'est surtout ça.
On avait parlé aussi la dernière fois, Nico, de l'âne.
Ouais.
Oui,
je sais pas si il est en train de,
tu veux passer du coq à l'âne.
D'être un leader. Ah, ça prend pas mal.
C'est pas mal. Hein.
Non, mais justement.
Oh, sois pas vénère, elle est bon au jeu de mots, là, Malardo, là.
C'est excellent.
Merci.
Non, c'est parce que t'as pas rigolé sur le show.
Si, je rigolais jamais bien.
Non, c'était pour ça.
Oh, excuse-moi. Quand on récupère le ballon au milieu et puis qu'on se projette vers l'avant, ben justement, je trouve que c'est ce que fait l'âne et ce qu'il fait plutôt bien d'ailleurs. Mmh. On le voit avec le 1-2 sur, avec Roussillon et puis la passe pour le premier but de Roussillon, justement, voilà. Voilà, c'est un des joueurs qui se projette vers l'avant et qui construit bien le jeu au milieu. On a besoin de lui, quoi.
Maintenant, en fait, il est devenu leader maintenant. Ce qu'il n'était pas avant, il se cherchait. Même dans son poste, je sais même pas si tu lui poses la question, quel est ton poste, je sais même pas s'il serait répondre vraiment parce que il a fait un petit peu tous les postes. C'est un petit peu un couteau suisse. Mais là, je le sens serein dans ses décisions de passe, de garder le ballon et de donner. Eh ben, il fait toujours les bons choix.
Merci Ludo de nous avoir appelé.
Ouais, Nico.
Ouais.
On supporte quand même l'équipe de France de tennis, on la veut, cette
Coupe d'Égypte. On l'a dit, demain à partir de 10h sur RMC, mon gars, dispositif exceptionnel, on est là, on mène 2-1 face à la Belgique, qu'est-ce qu'on va leur mettre?
On sera là, à l'écoute de la radio, merci beaucoup. Voilà,
merci, bonne soirée, Ludo.
Salut, Ludo.
À bientôt, Ludo. Salut, ciao. Salut. Tiens, un petit tweet qui va faire plaisir à Ludo, Queen Bee qui nous dit sur le hashtag RMC Live, Montpellier a fait un super match, ce qui n'est pas le cas du LOSC. Il y en a un qui est vénère, qui doit être triste. C'est Nicolas, supporter de Lille, qui nous a appelé au 32-16.
Ah, de Préville.
Ça va, Nicolas?
Ça va.
Alors, en forme ce aller, soir, Nicolas.
C'est... Salut, Nicolas. C'est la grande forme.
Salut, Nicolas. Ouais, c'est pas la grande forme pour ton équipe, par contre. Hein.
Non, pas du tout.
La rechute.
Pas pour moi non plus, du coup. Hein, pour moi non plus, malheureusement. Mais on sait pas du tout où on va. Ça devient de pire en pire, c'est inquiétant, très inquiétant.
Alors, quelle analyse tu fais de la situation, justement? Alors, première question qu'on a envie de te poser comme ça, est-ce que tu es content que Bielsa soit parti?
Alors, je vais essayer de pas parler personnellement, mais moi, je trouve que le principal problème, c'est qu'on avait déjà la moitié des joueurs qui étaient venus que pour Bielsa, et d'autres joueurs qui étaient aussi restés que pour Bielsa. Et maintenant, ils se retrouvent là, sans vraiment savoir pourquoi, sans vraiment savoir où ils vont. On est 19e, et du coup, je pense que toutes ces questions se ressentent sur le terrain parce que voilà, c'est devenu vide aujourd'hui contre Amiens en deuxième mi-temps. Et du coup, je pense que voilà, tout le monde se cherche un petit peu et on ne sait pas trop où aller. Du coup, voilà, avoir fait partir Bielsa maintenant, je pense que c'était peut-être pas le meilleur timing avec tous ces matchs qui s'enchaînent déjà tous les trois jours. Et comme vous avez dit tout à l'heure, on va à Lyon, on va au Parc, on reçoit Toulouse, donc c'est peut-être pas le meilleur timing pour faire partir Bielsa.
Mais c'est ce que dit Nicolas est tellement révélateur, mais on l'a déjà dit cette semaine, c'est ce projet lillois a été articulé beaucoup trop autour d'un homme au lieu d'être articulé, exactement, comme le disait Ali hier soir, autour du club. Un seul être vous manque, et là, le club lillois est totalement dépeuplé, et c'est un marasme. On parlait des perspectives qui sont franchement pas reluisantes, en plus avec le calendrier que tu as donné, mais Nicolas l'a parfaitement résumé, et on le sent, c'est trop autour d'un homme. Aussi important, aussi belle que soit sa valeur, son pédigré en tant que esthéticien du foot, en tant que laborantin du foot,
voilà,
comme
plutôt
Marcelo Bielsa l'est, mais maintenant il est barré, on n'est pas la moitié de la saison, et tu vois ce club qui est en perdition. Alors qu'on a évidemment pensé que ça allait être un projet solide. Et avec le recrutement, avec des noms avec leur mère qui les connaissait,
c'est
hein,
ça,
les
le Arojo,
les Thiago Maia.
Là, c'est un travail collectif qui s'est fait avec la coordination sportive. Mais c'est vrai que ce que dit Nicolas est intéressant. C'est-à-dire, tu vas chercher Bielsa, tu sais que les mecs viennent aussi pour lui, tu sais que certains restent aussi pour lui. Est-ce qu'il fallait pas laisser plus de temps à Bielsa finalement?
Soit dès le début.
Il avait combien attendu du temps à passer
pas
janvier?
Énorme,
on savait que c'était dans les tuyaux.
Oui, mais il a commencé à bosser là cette saison. C'est pas depuis janvier.
Non, mais qu'il ait commencé à bosser, c'est une chose. Mais
c'est pas qu'une question.
Quand c'est catastrophique. Ce n'était pas que c'était moyen ou pas bien, c'était catastrophique, c'était du n'importe quoi. On aurait dit une équipe de juniors qui cherchait à évoluer en Ligue 1. Donc arrive un moment, tu te poses des questions.
C'est pas qu'une question de temps, c'est que la greffe, elle ne prend pas. Que tu t'appelles Bielsa, Guardiola...
Des fois, il faut du temps pour que la greffe prenne aussi, François. Là, il commence.
Ouais,
il avait eu deux victoires avant la défense.
Le temps, c'est un luxe que tu ne peux plus te payer. Et quand tu mets en plus un nom ronflant comme Bielsa, ce temps-là, il est d'autant plus raccourci, parce qu'avec Bielsa, le temps, tu vas le mesurer d'une autre manière. Donc, combien de temps on va arriver à s'approcher de nos objectifs, qui sont des objectifs de succès? Non seulement tu t'en rapproches pas, mais c'est dans le sens inférieur que tu prends l'ascenseur. Avec un nom aussi ronflant, je te parle pas du salaire et des émoluments, même si ça compte pour un gars comme Lopez. Ça ne marche pas, ça prend pas, tu le vires, et là, tu vois les trois têtes d'affiche qui étaient sur le banc, toutes recrovillées l'une contre l'autre, en train de regarder cette pauvre équipe lilloise prendre le bouillon. Non, c'est quoi maintenant la,
et le pire,
même eux, ils savaient pas pourquoi ils étaient là.
Le mot de la fin, vas-y Nico.
Même eux, là, les trois qu'on a mis en attente, on va dire, ne savaient pas pourquoi ils étaient là, ce qu'ils allaient faire de cette équipe.
Et bon, il y a un intérim, Nicolas, il faut évidemment qu'il se fasse. Non, moi j'ai entendu parler d'Eriksson cette semaine. Bah, Eriksson sorti de la retraite pour venir.
Ils ont parlé d'Eriksson.
Il va y en avoir des noms.
Le niveau du salaire, il était pas mal ces derniers temps aussi. On va entendre de tout et n'importe quoi dans les prochains temps. Courage, Nico.
Merci, il va m'en falloir.
Il te faut plus que du courage.
À bientôt, Nicolas.
Merci beaucoup.
À bientôt, salut.
Ciao, Nicolas.
Allez, on vous dit à tout de suite pour la suite de cet after. On va revenir sur la victoire de Caen face à Bordeaux 1-0. Septième match en victoire pour les Girondins de Bordeaux. Supporters des Girondins, on vous attend au 32-16. Tiens, Baptiste Le Caplain, je sais que tu nous écoutes. Mais au moment où tu nous écouteras, tu seras en train de courir, ce qui fera son footing avec le podcast. Donc ce sera trop tard pour rappeler le 32-16. Ouais, supporters calés aussi, appelez-vous, parce que ça se passe pas mal cette saison. À tout de suite, messieurs dames.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Et Ali Benarabia et François Malardo et vous au 32-16 et sur le hashtag RMC Live, bien entendu, je vous rappelle les résultats de Ligue 1 de ce samedi. La victoire de Rennes face à Nantes dans le derby de l'Ouest 2-1. On vous attend d'ailleurs, supporters des deux équipes, au 32-16 avec une question posée par Lolo Fala qui ne fait pas que poser des questions également pour, vous savez, les sondages sur le compte Twitter de
l'Afterfoot. Oui,
voilà, il m'a demandé de dire ça parce que sinon les gens lui tombent dessus pour dire ouais, il fait que ça, c'est pas vrai, il fait pas que ça. Hein.
Il fait aussi des photos. Oui, bah alors qu'est-ce qu'il fait d'autre?
Bah, il tout, tu vois, l'autre jour, on parlait de tes buts, là, que t'avais marqué des volets et tout, là. Bah, c'est lui qui les trouve sur Internet. Le mec, il va dénicher des pépites, c'est un fou, ce mec.
Il les invente aussi.
Ouais, bien sûr qu'il les invente, bien entendu. Victoire, donc, de Rennes 2-1 face à Nantes. Victoire de Montpellier 3-0 face à Lille. Caen, on va en parler dans quelques instants, s'est imposé 1-0 face à Bordeaux. Victoire 2-0 d'Amiens à Metz. 3 a battu Angers 3-0. Dijon a battu Toulouse 3-1. Demain à 15h, Nice-Lyon. À 17h, Marseille-Guingamp. À 21h, Monaco, Paris-Saint-Germain. Aujourd'hui avait lieu également la première descente de la Coupe du Monde de ski de l'année à Lake Louise au Canada. Alors compétition d'ailleurs qui a lieu 2 jours après le décès de David Poisson lors d'un entraînement avec l'équipe de France. Morgan Maury était avec David Chastan, le directeur de l'équipe de France masculine de ski alpin. Voilà qui a révélé ses premiers mots après ce terrible décès de David Poisson.
Ah, je crois que c'est déjà à partir du moment où on a fait l'entraînement hier, ils sont dans le mode compète. Après, la seule différence, c'est que c'est la course, c'est que ça compte. Voilà. Après, je pense qu'il y a certainement de la déception chez les gars. Je le comprends parce que ce sont des sportifs de haut niveau, des compétiteurs. Mais il y a aussi des bonnes choses à apprendre dans cette journée. Notamment, je vous dis, Adrien fait une très belle course. On a fait quand même quelques erreurs avec certains. Et il faut qu'ils gardent le côté positif des sections qu'ils ont fait. Et ils sont dans le coup. Donc voilà, on a les deux jeunes derrière qui découvrent la piste, hein, qui rentrent dans les 30. L'autre qui est juste à la porte des 30 avec un gros dossard. Bon, moi je suis déjà très fier d'eux, bien sûr. Et je suis serein pour la suite parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier aussi les 10 jours qu'on a passés. Et ça nous coûte aussi aujourd'hui à la compétition par rapport aux autres. C'est tout simple.
Voilà, et Adrien Théo qui est le premier Français qui a terminé 7e. On file direct à Nanterre. On vous rappelle que le 15 de France a fait match nul, 23 partout face au Japon aujourd'hui dans la tournée de novembre. Et Guy Noves, le sélectionneur du 15 de France, est en ce moment même en direct en conférence de presse.
Par un match haché, saccadé, avec les fautes presque habituelles de ces derniers temps. Mais ce qu'on peut regretter, c'est que quand on a eu des points à marquer qui se sont présentés, on n'a pas su les prendre. Et nos transformations de jeu sont évidemment bien trop lentes pour pouvoir mettre en difficulté ce genre d'équipe qui joue très vite.
Allez, Guinoves, c'est en direct en conférence de presse.
Tu peux traduire en japonais, s'il vous plaît?
Ah, elle va traduire en japonais.
Tokyo no Nihon Chim, totalement yokatta desu. Sore demo yappari gakkari shita kekka desu yo ne, という shitsumon ni taishite minasan to onaji.
On comprend rien, en fait. Donc, match nul du 15 de France, 23-23, face au Japon. Voilà, la France qui restait sur 5 défaites, hein, notamment face au All Black et également l'Afrique du Sud. Et Guinoves, c'est donc en direct en ce moment même, en conférence de presse. Dans quelques instants, on va évoquer la victoire de Caen 1-0 face à Bordeaux avec un seul but dans ce match. Donc forcément, l'œuvre de Santini. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué, Santini.
Et ce que j'arrive pas à comprendre, le centre, on le voit venir et que Costil reste sur sa ligne alors qu'il est pratiquement à bout portant. Mais très beau but de Santini, par contre, c'est ça un avant-centre qui reste près du but et je pense qu'il fait énormément de bien à cette équipe de Caen.
Ne coupe pas Guinoves, Ali Benarbia, le sélectionneur du 15 de France.
Oui, par l'équipe du Japon, je pense que nous étions avertis. Puisqu'aujourd'hui toutes les équipes s'épient puisque toutes les équipes jouent un certain nombre de matchs et on savait très bien que cette équipe avait évidemment énormément progressé, mais surtout on savait qu'elle jouait très très vite. Mais si vous voulez, c'est mon chantier, comme pour reprendre la première expression. C'est pas de regarder l'équipe du Japon, évidemment. Ce soir, sa vitesse dans le jeu, sa prise d'initiative, c'est le jeu qu'elle a produit dans ses 22 mètres. C'est le jeu que nous faisions il y a peu de temps, mais qui finalement aujourd'hui qu'on n'ose peut-être plus produire, parce que je crois qu'il y a une perte de confiance momentanée. Et c'est vrai que dans le chantier en question, il faut retrouver absolument un peu de sérénité.
Elle est forcément déçu, hein. Guinoves, le sélectionneur du 15 de France, qui a donc fait match nul 23 partout face au Japon. Revenons donc à ce match entre Caen et Bordeaux, victoire de Caen 1-0. Septième match en victoire pour les Girondins de Bordeaux. Tiens, il y a un tweet là que j'étais en train de dire sur le hashtag RMC Live. C'est Ange Nabil qui nous dit Bordeaux avance sa venue au parc, parce que c'est vrai que ça a été un virage, hein, finalement. Troisième de Ligue 1, Gourvennec est-il le meilleur entraîneur français? Bordeaux peut inquiéter Paris. Depuis, on connaît la suite. Le PSG les détruit depuis Bordeaux. Aucune victoire en sept matchs. 13e de Ligue 1. C'est vrai que c'est difficile à expliquer. Toi, l'ancien Bordelais, Ali, comment tu analyses ça, cette situation?
Déjà, avant ce match-là, on a vite effacé Vidéoton. Alors qu'en général, tu fais toute la saison pour te qualifier pour l'Europa League. Et ce match de Vidéoton, on l'a oublié. En se disant, ben non, ça va faire du bien, ils joueront pas ni le jeudi ni le dimanche.
Mais attends, t'étais le premier à dire que c'était une bonne chose pour eux, hein, pour
oui,
le championnat.
Parce qu'ils n'ont pas l'effectif.
Ouais.
Mais ça voulait dire que quand tu prépares un match comme ça aussi important, t'as la chance de tomber sur Vidéoton. Si tu le passes pas, c'est qu'il peut y avoir des prémices.
Entre-temps, ouais, c'est un indice qu'il y a un truc qui
exactement,
peut ne pas aller,
quoi. Entre-temps, on disait, oui, c'était une très bonne défense. Une très bonne défense, une très bonne équipe qui explose 6 buts, qui prend 6 buts au parc, automatiquement, elle ne peut pas être une très bonne défense. La preuve que j'étais au parc, moi, pour PSG Bordeaux, et il y avait des espaces en veux-tu, en voilà, même si c'est vrai que le PSG est fort. Mais après, la force d'une équipe, c'est de réagir. Et je pense que Gourvennec, encore une fois, est en train de chercher son équipe. Alors, essaie de colmater, essaie de sortir les vieux, mettre les jeunes, ressortir les vieux,
non, je
remettre
suis pas
les jeunes.
Avec toi.
Il est toujours en train de se chercher, Gourvennec.
Je ne suis pas d'accord, parce que quand on voit la compo là, que Jérôme Thomas affiche, pour moi, c'est cette équipe, normalement, qui doit faire la saison, même si, effectivement, c'est un peu court au niveau de l'effectif. Mais c'est une équipe qui peut avoir un peu de gueule, et puis, finalement, même après l'élimination contre le club hongrois, fait un début de saison qui est pas dégueulasse, Ali.
Pas un début de saison. Il y avait combien de matchs avant de jouer contre le PSG?
Depuis la défaite contre le PSG, après, il y avait d'autres matchs sur lesquels Bordeaux aurait pu tirer son épingle. Ça passe pas. Alors, est-ce qu'il y a une cassure après en avoir encaissé 6 au Parc des Princes? Mais tu sais très bien que le match contre Paris cette saison, c'est un match à part, pour plein de raisons.
Ouais, mais il y a défaite et défaite après
oui.
aussi.
Oui, t'as défaite et défaite, d'accord. Mais Glasgow en a pris 7, Toulouse en a pris 6, Bordeaux, bon, ben, malheureusement, ils se trouvent dans le trio comme ça, qui ont pris un 7 à rien. Mais je pense pas que ce soit cette défaite-là. T'en prends 6 contre Nice, t'en prends 6 contre Lyon, t'en prends 6 contre Marseille. Je pense que c'est beaucoup plus dur à encaisser. Maintenant, il y a quelque chose, je pense, qui est du travail, qui ressort du travail de Gourvennec et de l'encadrement du staff bordelais avec ses joueurs, qui s'est peut-être un peu délité dans le management de cette équipe, où il faut, mais je pense que Gourvennec en est le premier conscient, peut-être que ça passe pas encore, leur mettre des coups de pied au cul et leur dire vous êtes de bons joueurs, mais il faut pas simplement le dire, tu sais très bien qu'il y en a une fois le message passe, il y en a une majorité, c'est il faut leur répéter, leur rabâcher.
Alors justement, c'était la huitième journée, le match contre le PSG. Est-ce que la communication qui a été adoptée par Bordeaux ces derniers temps, finalement, elle n'enlève pas de la responsabilité au vrai responsable de ça? Je ne sais pas si vous avez vu le président, là, il s'est plaint en disant il faut que les arbitres soient plus professionnels.
Ça, il faut que ça. Mais ça, alors
j'en profite. Dans un pays latin,
j'en profite. Non, c'est très franco-français.
Oh non, je t'assure.
Non, évidemment, mais tout le monde le fait.
En Italie, au Portugal et tout, les mecs, ils font ça tous les week-ends.
D'accord. Mais en France, ce côté prendre les arbitres pour cible, l'arbre qui cache la forêt de ton incompétence ou de tes faillites managériales ou de ton mauvais marché des transferts, qu'on arrête d'emmerder les arbitres. Ils sont mauvais comme des joueurs sont mauvais. Moi, le jour où j'attends le jour de voir un arbitre prendre un micro et dire, franchement, vous avez vu là, les deux, trois joueurs dans l'équipe que j'arbitrais, qu'est-ce qu'ils étaient mauvais, qu'est-ce qu'ils étaient nuls. Mais ça, on ne le voit jamais, ça n'arrivera jamais, je vous le dis. En revanche, les mecs qui tapent les présidents ou les joueurs ou les entraîneurs,
quand ils n'ont pas
les
des
présidents
résultats,
qui tapent sur la gueule des arbitres parce qu'ils n'ont pas les résultats, exactement, ça suffit, quoi.
Attention, c'est important parce que mon homme est de travers. Attends. Voilà, là, il est droit. On va accueillir Michel, supporter de Bordeaux, qui nous a appelé au 32-16. Ah, sois pas vénère, hein.
Non, mais parce que je l'ai vécu aussi de l'autre côté de la barrière.
C'est facile, c'est vrai.
Michel, évidemment, ils ont le droit d'être mauvais, mais qu'on arrête de tout leur mettre sur la gueule.
Michel,
quoi. Oui.
T'es là, Michel?
Oh,
Michel, peut-être fais la gueule, Michel.
Vous m'entendez?
Ouais, bah oui. On est là, c'est bon, on déconne. Ça va, Michel, ou quoi?
Oui, c'est pas trop le top, là, Bordeaux, ouais.
Ah, oh, bah non, c'est le cas de le dire, ouais, c'est ça,
non, parce que je vais vous dire une chose, contre Marseille, si on gagne pas le match, c'est parce que les joueurs sont pas capables de mettre les buts, parce que l'arbitre, il est pour rien. Moi, je trouve que c'est une équipe de nuls. Le mercato chez les Girondins de Bordeaux, chaque été, je pensais que c'était cohérent, c'est de la merde.
Non,
ils ne sont pas bons.
Oui, bon.
Les ragueurs, excusez-moi, ils n'avancent pas. Toulalan, il décroche pas la caravane, zéro. On est dépassé, on est zéro. Kamano, il est pas à Bastia, là, non plus. Hein. Donc, pour moi, zéro. Le mercato est toujours non réussi. On ne marche pas. C'est pas possible. Je suis déçu, là.
Tiens, t'as pensé quoi de la sortie du président Stéphane Martin, là, justement? Alors, je le cite, hein. Ils ont
non, je l'ai pas vu, là, ce soir.
Alors, tiens,
pas regardé Girondin TV, j'étais trop déçu du match.
Non, c'était pas ce soir, c'était il y a 5 jours, hein, Michel, mais il déclarait, oui. Voilà, c'était dans l'équipe,
oui.
En parlant des arbitres. Ils ont des salaires de cadre supérieurs, ils ne sont pas performants. Dans quelle boîte un employé défaillant demande-t-il une augmentation? Il manque d'ouverture à la critique, de feeling par rapport au jeu, et ça dénature le spectacle.
Non, je suis pas d'accord. Les arbitres, je veux bien qu'il y ait des pénalties qu'on siffle pas. Mais si les joueurs sont pas bons, l'arbitre y est pour rien.
Ouais.
Là, je dis que cette équipe, elle n'est pas bonne. On est 13e. Et il faut faire attention parce qu'on peut finir plus bas que prévu d'ici décembre. Hein.
Moi, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que ton équipe bordelaise,
non,
avec
ils sont pas bons.
Malcolm,
il peut faire mieux.
On peut te répondre.
Il vaut rien, ce Malcolm. Excusez-moi, mais je le trouve pas bon.
Attends, François va te répondre,
c'est
Michel.
De trouver Malcolm pas bon. Moi, je pense que dans cette Ligue 1, ton Malcolm que tu trouves pas bon, pas mal de clubs aimeraient bien l'avoir avec eux. Maintenant, je pense que cette équipe bordelaise, elle peut mieux faire. Je pense que vous avez un bon coach.
Mais
il faut juste se réveiller un petit peu. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait parfois des périodes où ce club bordelais s'embourgeoisait. L'année dernière, c'était une année pas mal, qualifiée pour l'Europa League, élimination piteuse contre Vidéoton.
Ouais.
Bon, moi, je te dis qu'avec cette équipe bordelaise, vous pouvez faire mieux. Maintenant, en ce moment, ça ne marche pas. Mais comme on l'a dit en début d'émission, les points sont très resserrés entre beaucoup d'équipes. Ça peut aussi repartir dans l'autre sens.
Je peux dire quelque chose de deux minutes là.
Vas-y, Michel.
Alors, moi, quand j'ai vu qu'on s'était fait éliminer par Vidéoton, ça a donné le ton de tout le championnat.
Pour
moi, tu t'es qualifié, tu te fais éliminer. Donc pour moi, c'est le temps du championnat est donné.
Tu
finiras dans les 12 ou 13e.
Surtout, Michel, parce que c'était un barrage. Mais je reviens un petit peu vers toi, dans le sens où...
Oui, toi qui étais bordelais, Ali Ben Arbia, tu connais un peu le milieu.
Mais cette équipe, moi, elle, pour dire le cas de le dire, elle me fait pas bander, en fait, cette équipe de Bordeaux.
Loin
de là. Et quand je vois l'effectif, je suis d'accord avec toi, Michel, concernant les arrivées, le mercato, je me suis dit,
zéro,
on va avoir un groupe de joueurs gentils qui vont bien écouter Gorenec, qui a pas de caractère. Et au moment où il va falloir
avoir
du caractère, ils n'auront pas.
Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent avec ça? On peut pas jouer avec des agneaux. Il faut des guerriers. On a fait partir Yamberé, Palois et Gilbert, parce qu'ils étaient trop soi-disant trucs, et bien fallait les garder.
Palois qui s'est fait expulser avec Nantes, je suis pas sûr que t'avais envie de le garder celui-là.
Justement, on va passer dans quelques instants à Nantes. Merci Michel de nous avoir appelé.
Merci bien, au revoir.
Bonne soirée,
revoir.
Michel, bon courage.
Merci, bonne soirée, au revoir.
Allez, garde la pêche.
Et t'es pas content, Jacques.
Voilà, exactement. Accueillons Corentin, supporter de Caen, leur grand fidèle, qui fait partie même de l'institution de la famille, disons-le. Corentin, ça va, Corentin?
Salut à tous, salut Nicolas, salut,
salut François, Corentin.
Salut, c'est l'homme qui voit, qui suit tout, qui connaît tous les matchs, machin, tu sors le mec qui te donne la compo et tout. C'est Corentin, quoi.
Bah, peut-être pas quand même, peut-être pas quand même.
Ouais, t'es pas loin de ça, Corentin. C'est... Supporter de Caen, surtout, Corentin. C'est pas mal ce qui se passe avec Caen, là.
Bah, c'est pas mal, ça fait du bien de regagner. Bah, le match était compliqué ce soir, notamment en première mi-temps où on a beaucoup subi. Mmh. On met ce but, mais cette belle action bien construite. Je pense qu'en deuxième, on peut faire un peu mieux, on peut mieux gérer les deux, trois situations qui pouvaient nous permettre de faire le break. Non, c'est bien, c'est bien. Il n'y a pas forcément d'équipe type, ce qui fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent rentrer dans la rotation. Ceux qui sortent du banc sont très bons. Défensivement, par rapport à l'année dernière où on prenait l'eau, on s'est stabilisé. Le seul bémol sur ce début de saison, c'est peut-être que quand on est face à un adversaire qui a un peu trop de maîtrise sur nous, on a peut-être un peu du mal à avoir ce supplément d'âme, ce qui nous fait faire jeu égal.
Oh, vous l'avez eu avec Nice.
Nice, oui, on l'a eu dimanche dernier face à Nice.
Tu vois,
bon, un Nice sans Balotelli.
Ouais, enfin, Nice qui est 16e, enfin pas loin.
Oui, voilà, exactement.
C'est pas bien, Nice.
Ouais, mais c'est pas à la place qui.
Bon, je suis pas sûr. Attends. Lille, qui est 16e, c'est ça. T'es sûr?
Ouais, c'était pas. Voilà. Mais par contre, ce que je suis satisfait sur cette saison, c'est que tous les matchs à domicile, qu'on a les fameux matchs en zéro qu'on gagne, mais qu'avec beaucoup plus de cases, avec un peu plus d'efficacité, ça doit faire plus qu'un zéro, on arrive à avoir l'emprise sur le jeu face à des équipes qui sont de notre calibre. Alors ça, c'est une bonne chose.
Non, ce qui est bien, Corentin. C'est cette année.
Quand les 3 points de Marseille qui jouera demain.
Ouais, exactement. Par rapport aux autres années, c'est-à-dire que quand ils n'arrivent pas à mettre le deuxième, ils ne se font pas égaliser. Mmh. C'est ce qui aide Caen cette saison à se retrouver dans ce classement et de finir avec un Garand qui souffle bien, parce que chaque fois c'est ric-rac et que tu as de la chance quand même, encore que Vercoutre, souvent, est à la parade pour vous permettre de garder la tête au-dessus de. Tu m'as compris.
Ouais. Comment pas ces phrases, mais on les comprend, c'est quoi, on lit dans tes pensées, Ali. Merci Corentin de nous avoir appelé, supporter rennais, supporter nantais. On vous attend au 32-16, victoire de Rennes 2-1 ce soir. La première de Sabri Lamouchi, c'était la première à domicile également. Et il s'est imposé 2-1 face à Claudio Ranieri. A tout de suite.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Toujours avec Ali Benarbia et François Manardo avec vous également au 32-16 sur le hashtag RMC Live, bien entendu. Je vous rappelle les résultats de cette soirée de Ligue 1. On est à la 14e même journée. Il faut suivre, attention. Victoire de Rennes, 2-1 face à Nantes. On y revient tout de suite. Montpellier a battu Lille 3-0. Caen a battu Bordeaux 1-0. Amiens est allé s'imposer 2-0 à Metz. Victoire de 3-0 face à Angers. Et Dijon a battu Toulouse 3-1. Victoire donc de Rennes face à Nantes 2-1. Doublé de Cazeri pour le stade rennais. Salah avait égalisé sur pénalty à la 75e. À noter que les Nantais ont longtemps joué un bon moment, on va dire, du moins une bonne demi-heure. À 10 contre 11, après l'exclusion de Palois, il a pris deux jaunes en 5 minutes, hein, le défenseur du FC Nantes. C'était la deuxième de Sabri Lamouchi. Première victoire, c'était sa première d'ailleurs à domicile également.
Et contre Nantes.
Voilà, au Rosen Park.
Donc c'est une bonne chose pour mettre tout le monde dans sa poche. Le fameux match, c'était important pour lui, c'était important pour le club.
C'est un derby, il était très motivé. On l'avait
complètement
commenté hier, il avait dit que c'était le match de la saison. Hein,
il a poussé que pour les Rennais, pour le club, c'est le match de la saison. Et que s'il y a un moment pour Sabri Lamouchi de le gagner, c'était bien ce soir de gagner ce match-là pour ses débuts. Au club, devant les supporters. Et je pense qu'ils vont faire un bon petit travail maintenant.
Ouais, il y a encore du boulot, moi, tu vois, plutôt.
Il y avait
un gros quart d'heure. Ouais, les 10 Nantais, là, ils étaient en train de les bousculer.
Mais Nantes,
et là, tu
vois,
ce Rennes avec ce manque de caractère qu'on lui connaît. Bon, finalement, c'est l'aigle de Carthage qui a mangé les petits canaris. Mais c'est le joueur le plus technique sur les 22 qui s'est distingué, il est en super forme. Là, franchement,
Cazeri est concentré sur le football et non pas à parler aux joueurs et aux arbitres, là, il est très bon. Et Rennes a besoin d'un très bon Cazeri. Parce que.
C'est pas plus casse-couille que ça avec le corps arbitral,
Cazeri. Il passe son temps à parler aux adversaires. Et il sort tout le temps du match. Non.
Allez, il a sorti deux buts, hein. J'ai regardé, je crois que c'était pas arrivé depuis 2012, un doublé pour lui.
Ça se passe bien. Puis, Rennes a trop besoin de ce joueur qui ne sort pas du cadre. Pourquoi? Parce que quand ce joueur est bon et qu'il reste concentré, il va sauver souvent Rennes et va leur faire la différence.
On peut dire surtout ça. Sur l'expulsion de Palois, enfin. Deuxième charge qu'il met sur
Bouge
Cazeri.
Pas. On va y revenir dans quelques instants. D'abord, écoutons l'analyse de Sabri Lamouchi après cette victoire dont face au FC Nantes. Voilà une victoire qui va apporter de la sérénité à son équipe.
Une victoire générale, une victoire méritée. et je suis très heureux pour eux, évidemment très heureux pour moi, parce que gagner ce match aujourd'hui me permet de continuer à travailler dans la sérénité, entre guillemets, même si la sérénité dans le football ne dure pas très longtemps.
C'est intéressant ce qu'il dit.
Attends, c'est intéressant ça. Il a enfoncé toutes les portes ouvertes.
Attends, écoute-moi.
Je suis content. Je suis très content.
Tu l'as senti quand il dit la sérénité. Sens qu'il voulait dire mon prédécesseur. Vous l'avez quand même bien, bien emmerdé pendant un moment. Cette victoire est importante.
Il l'a emmerdé entre guillemets.
Cette
d'abord,
victoire,
c'est le boulot,
elle
c'est
est
emmerdé quand t'as pas le résultat.
Cette victoire est importante pour mes gens, mais aussi pour moi, parce que je rappelle qu'à un moment où les choses se passaient pas trop mal pour Gourcuff au niveau sportif, il était sur une belle série. Ah, mais je suis sûr. C'est un mec intelligent, hein, Lamouchi.
Mais
que tout le monde taillait avant même qu'il ait commencé.
Non, mais par contre, il a dit ce qu'il ressentait. Il n'a pas mis des phrases pour dire autre chose. Non, ça va, moi je suis
sûr. Il va pas nous dire qu'il ressent qu'il a de la sérénité à chaque fois qu'il gagne un match, parce que sinon on va s'emmerder.
Pour son arrivée.
Tu as raison, il est suffisamment intelligent, pardon, pour raconter.
Il était sur une défaite,
pour son arrivée.
C'est son deuxième match.
Non, il y avait quatre victoires d'affilée. Tu arrives, le mec, on le sort à 4 victoires d'affilée. Tu arrives, toi tu perds. Qui plus est, contre Strasbourg. Donc là.
Pourquoi qui plus est contre Strasbourg? Il n'y a rien d'infamant à perdre contre les Alsaciens en ce moment.
Ça reste un promu Strasbourg avec.
D'accord, ça reste un promu.
Mais, ils sont chiants, ils sont touchés.
Non, non, je dis pas le contraire.
Ils sont pas non plus extraordinaires, mais ils sont pas mauvais.
Mais j'ai pas dit qu'ils étaient mauvais. C'est un promu. C'est Strasbourg. Il y a pratiquement aucun joueur qu'on connaît dans cette équipe de Strasbourg.
Ça veut rien dire. En même temps,
je sais que ça ne veut rien dire.
Strasbourg, tu sais jamais ce qu'ils ont.
Moi, je les connais internationaux, je les connais tous.
Si c'est pas un bon match, tu te fous.
C'est
un match soporifique.
Je connais des joueurs de poisson de l'heure.
Bah ouais, je te dis, moi, je les ai suivis.
Je t'explique. Voilà.
On parle à trois, là.
Donc, et depuis le début de la saison, Strasbourg a pas eu des super résultats. Ça va bien ces derniers temps.
C'est pour ça qu'il commence à trouver un rythme, il commence à trouver une assise dans le jeu.
Mais quand tu arrives, et automatiquement, de suite après, avec cette pression qui se passe autour, plus pas que l'entraîneur, parce qu'il y a aussi Olivier Létain et Ruelo. Donc tu avais tout en même temps, tout un package qui était sous pression. Et le fait de gagner à domicile contre Nantes et devant ses supporters, ça fait la différence.
Arrête plus.
Tiens, ça fait la différence. Sur le hashtag RMC Live, je sais que tu l'aimes bien celui-là. Herbélie, voilà, grand supporter du Stade Rennais. Pour une fois du caractère chez les Rennais, c'est la base, mais l'avoir, c'est déjà une bonne nouvelle pour Lamouchi. De plus, n'oublions pas l'absence de Sarr, le meilleur attaquant du club. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'absents. Alors, Amalfitano est suspendu pour 3 matchs également après son mauvais
geste. Gourcuff était là, en revanche.
Attends, tu sais que moi, je l'ai pas tôt. Il a eu des inspirations. Alors, on en parle avec Jérôme Thomas, notre producteur, grand fan du Stade Rennais.
Ça
franchement,
serait, oui.
mais ça pue le football. Ce mec, il pue le football. Quand il est bien, Gourcuff, quand même, il peut te faire des
non,
trucs.
Pas quand il est bien, quand il est pas blessé.
Bah voilà, donc quand il est bien.
Blessé, oui,
voilà.
Raison,
attends, mais le mec, voilà.
Qui a dit que Gourcuff n'était pas mauvais?
Mais toi, tu l'as dit la semaine dernière.
S'il est à l'endroit, Johan.
Non, c'est même pas ça, parce que même Gourcuff,
s'il
est pas blessé.
Si il se blesse pas, on est champion.
Non, c'est.
Non, oui, là, ça, c'est Jérôme Thomas qui le dit.
Champion de quoi?
T'as abusé sur le site, toi.
Champion d'automne?
De Bretagne, il a dit.
Champion de Bretagne.
D'automne de Bretagne, même.
Voilà. Non, c'est qu'à dire, si Gourcuff n'est pas blessé, un joueur moyen, c'est sûr qu'il serait déjà le meilleur joueur de Rennes. Mais cette équipe de Rennes, elles ont besoin d'un bon caserie.
Tu l'as pas arrêté.
L'analyse.
Moi, je pense.
L'analyse. On a écouté Sabri Lamouchi après sa victoire demain face à Nantes. Écoutons maintenant l'analyse maintenant de Claudio Ranieri, l'entraîneur des Canaries.
Copain Domenech.
Mais les résultats, tu connais le football, peut-être positive, négative, mais la prestation était bonne. On a joué bien. Et après, beaucoup de cartons jaunes, 10 contre 11. Et je pense que 10 contre 11, on a joué meilleur, on fait bonne chose. Et je pense que mon jeu était un peu énervé pour les arbitrages, mais c'est le football.
4 défaites sur les 5 derniers matchs pour le FC Nantes quand même. Hein. Ils avaient très bien démarré la saison, mais là, il y a un moyen.
On a des équipes de
cycle. Dans les 4, c'est contre Paris. Moi, je compte 3.
On a des équipes de cycle en ce moment en Ligue 1. Vous avez remarqué?
C'est vrai, il y a des séries, oui.
C'est des victoires, c'est que des défaites, parce qu'on n'a pas des équipes qui arrivent à suivre exactement.
Un cap, tu veux dire?
Oui,
avec,
un cap.
Un message de manager.
C'est impressionnant. Non, c'est pas le message du manager.
Ouais.
C'est pas le message. C'est parce que c'est comme ça. Je suis sûr que c'est pas assez de caractère.
Tu sais pas les maintenir tout le temps sous pression.
Pas assez de caractère psychologique dans un groupe.
Pas assez de caractère, mais c'est ton caractère psychologique, c'est ton manager qui te l'insulte.
Et on a, non, et sur le terrain, je suis désolé, c'est pas que le coach, on a trop de jeunes joueurs en Ligue 1.
On va aller en Allemagne, je vous donne juste le résultat du sondage qui a été lancé sur le compte Twitter de l'After. Sabri Lamouchi a enregistré sa première victoire avec Rennes 2-1. Ce Rennes version Lamouchi est-il plus beau à voir que celui de Gourcuff? Et vous êtes 73% à avoir répondu non, rien n'a changé. 27% oui, on sent la patte Sabri Lamouchi. On file en boulie en Allemagne parce qu'il y avait deux belles affiches ce soir, 13e journée de Bundesliga. David Lortolari est avec nous. Salut mon David.
Allô Point 2, salut messieurs.
Alors David,
salut David.
Ça va mon gars ou quoi?
Bah oui, deux gros événements ce soir.
Alors on va débuter par le derby de la Ruhr, Schalke 04 face à Dortmund, 4 partout. Ah oui. Alors match de déglingo, Dortmund qui menait 4-0 après une demi-heure de jeu, et Schalke égalise dans le temps additionnel, c'est quoi ce match là?
Bah toi tu tues tout le suspense d'entrée toi Nico Villas.
Bah, disons que les gens ils ont internet maintenant, ils connaissent les résultats si tu veux. Donc.
Pardon, je suis un peu old school, c'est vrai. Non, c'était effectivement un derby de dingue, le 91e de l'histoire en Bundesliga. Alors on sait, et je me souviens que Daniel Riolo l'avait dit il y a quelques jours dans l'after, les derbies ça ne suit aucune logique, c'est-à-dire que Schalke était très bien ces derniers temps, était dans le haut du classement et marchait très bien. Il s'est retrouvé à Dortmund cet après-midi face à un Dortmund clairement réveillé, tout feu tout flamme,
survolté.
Avec un Aubameyang qui avait retrouvé un petit peu son âme, avec une équipe qui avait retrouvé un semblant d'allant collectif vers l'avant, et Dortmund a marqué une fois, deux fois, on s'est dit tiens c'est bien engagé, trois fois, quatre fois dans la première mi-temps, tu l'as dit, 4-0 à la mi-temps, et là on se dit bah Schalke a explosé en vol, avec l'ambiance du Signal Iduna Park en plus à Dortmund, et puis pas du tout, dès que Schalke a marqué un premier but et est revenu à 1-4, on a vu que à Dortmund c'était pas serein, il y avait beau avoir trois buts d'avance, on s'est dit bah finalement c'est pas fait. Et conformément au dernier match, enfin au match récent de Dortmund, où l'équipe a régulièrement craqué, on l'a vu par exemple contre Tottenham, des gros soucis physiques en deuxième période, eh bien l'équipe a clairement baissé de pied, a perdu son moral, a perdu son physique, et Schalke est revenu avec.
A perdu un joueur aussi David, excuse-moi de te couper.
Oui, Aubameyang
exclu. Parce qu'il y a deux buts de Schalke qui sont après l'exclusion d'Aubameyang.
Complètement, et il y a encore 4-2 aux alentours de la 80-85e minute pour Dortmund, on se dit ça va le faire, et ils vont retrouver, ça va être une victoire très importante pour asseoir l'entraîneur, pour qu'il retrouve de la confiance aussi. Pas du tout. Schalke y a cru, c'est aussi le propre de ces derbies-là. Le derby de la Ruhr, absolument incroyable, toujours très très disputé entre les deux. Schalke y a cru, et c'est le grand mérite de Schalke. Et effectivement, à la fin du match, quand Schalke égalise à 4-4 dans les arrêts de jeu, on voit bien que clairement, la victoire psychologique, elle est du côté des Bleus, et la défaite psychologique, elle est du côté de Dortmund. Ça va faire mal, ce match nul pour Dortmund, qui croyait bien tenir une victoire de prestige.
C'est vrai que Dortmund, ils avaient fait un début de saison de dingue. Là, ils sont bien descendus au classement. Dortmund est 5e. Ils sont à 8 points du Bayern. On va y revenir au Bayern qui a perdu aujourd'hui. Un petit mot sur Amin Harit. Il est bien là depuis le début de saison?
Bah, il est pas forcément aussi autant de temps de jeu qu'on aurait pu imaginer, parce que c'est un jeune qui va bien. Il a eu le mérite de marquer, et ça c'est vrai que c'était vraiment aussi globalement dans le collectif de Schalke en deuxième période, c'était clairement la période bleue à ce moment-là. Il en a profité aussi. Oui, il montre des choses intéressantes, mais non, il n'est pas encore complètement installé dans cette équipe à mon sens. Il y a encore une modestie peut-être à avoir, des progrès à faire, mais clairement l'environnement est favorable pour lui, parce que je le répète, le grand vainqueur du jour et le grand vainqueur actuellement au classement par rapport à Dortmund, c'est bien Schalke.
Et Leipzig aussi.
Oui, alors bien sûr.
Leipzig qui a battu le Werder, donc 2-0. On va tout recontextualiser. On a le Bayern qui est toujours leader avec 29 points, à 3 points derrière, et Leipzig avec 26 points. Leipzig qui a 2 points d'avance sur Schalke. Et Gladbach, donc qui a battu le Bayern aujourd'hui 2-1. Et Dortmund est 5e, ils sont donc à 8 points du Bayern. Parlons un peu du Bayern qui s'est incliné à Gladbach. C'est la première défaite de Heynckes depuis son retour là.
Ouais, il y avait 9 victoires sur 9 matchs pour Jupp Heynckes, c'était un sans faute, c'était un carton plein. Cependant, alors c'est beaucoup plus facile d'analyser après coup, mais cependant, les dernières victoires du Bayern, et notamment la victoire très difficile, très poussive contre Anderlecht en Ligue des Champions, avaient donné quelques signes avant-coureurs d'un Bayern certes vainqueur, certes en réussite, mais pas forcément génial. Et ça s'est vérifié aujourd'hui face à une équipe qui était à domicile, Mönchengladbach, le grand Mönchengladbach des années 70 n'existe plus, mais ça va pas mal du tout pour cette équipe cette saison, avec notamment Thorgan Hazard, le frère d'Eden, et notamment aussi Matthias Ginter, qui est l'un des champions du monde 2014, qui a fait du mal au Munichois aujourd'hui. C'est bien ça, Ginter. Et le Bayern devait finir par arrêter sa série. Il y avait beaucoup de réussite dans certains matchs dernièrement, et là il est tombé contre une équipe un peu contre un os. C'est pas la première fois que Gladbach arrive à s'imposer contre le Bayern dans les dernières saisons. Parfois ça a été un peu des hold-up, parfois ça a été un peu plus justifié comme aujourd'hui. Il y avait 2-0 à la mi-temps messieurs, et le Bayern n'a pu revenir qu'à 2-1.
Merci beaucoup mon Lorto.
Salut, bonne
soirée. C'est du lortolari, quoi. Merci, mon gars. À bientôt. À très vite, David. Ciao, bisous.
Je viens de remarquer quelque chose. Que tu t'es habillé au coureur du derby de la Roure.
C'est vrai. J'ai pas fait gaffe, mais c'est vrai.
Ouais, t'as pas fait gaffe, hein.
Tiens, je vous rappelle que il y a les élections, les RMC Sport Awards qui continuent. C'est sur le compte rmcsport.fr. Élection du champion du sport français 2017. Ça va de Riner à Diniz en passant par la Cour, Vorlet, le Cléache. Voilà, l'équipe de France masculine de handball. Voilà, vous allez donc sur rmcsport.fr. Vous l'élisez. Le sportif de l'année. Le sportif français.
Teddy Riner.
Oui. Voilà, tout à fait. C'était Riner pour toi.
C'est qui là à la fin que t'es.
Merci. Allez, Bernard.
Oui, merci. Merci.
Bonne soirée, merci à tous.
Allez, international.
C'est le super football show, l'After Foot.